Bonjour Yvan Jablonka.
Bonjour.
Vous connaissez Nantes et vous connaissez ce festival ?
Je connais Nantes parce que j'y ai fait mon livre Laetitia. Alors je connais plutôt le Palais de Justice. C'est moins rigolo que les festivals et les festivals culturels. Mais j'aimerais bien y aller un jour pour voir le Royal de Luxe, vous savez, ce festival.
Cette compagnie, oui.
Où il y a des personnages géants qui se baladent dans la ville.
Vous pourriez y aller en camping-car ?
Oui, je pourrais. Et il paraît en plus que Jean-Marc Ayrault était un adepte du camping-car. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit.
Vous devriez en parler avec lui, vous qui venez d'écrire donc Yvan Jablonka, ce En camping-car qui vient de paraître aux éditions du Seuil dans la célèbre et fameuse collection La Librairie du 21e siècle. Yvan Jablonka, vous êtes historien et écrivain. Alors je ne sais pas si on le dit encore dans cet ordre-là. Est-ce qu'on dit maintenant écrivain et historien ? Est-ce que peu vous chaud ?
Non, je crois que y a encore un ordre des priorités intellectuelles. Je suis d'abord historien et dans un deuxième temps, je suis écrivain. J'écris, mais je sais très bien que pour moi, le plus important, c'est de dire des choses vraies, d'écrire des choses vraies sur le passé, sur les passés, sur les mondes qui ont disparu ou en l'occurrence sur mon enfance.
Oui, comme c'est le cas avec ce livre En camping-car. Alors ça tombe bien puisque c'est le premier jour des vacances de février pour la zone C. Mais la moitié de la France est en vacances depuis une semaine déjà et l'autre moitié le sera dès samedi prochain. Le camping-car, Yvan Jablonka, c'est bon pour toutes les saisons ou ça n'est surtout valable que pour les vacances d'été ?
Ça rime plutôt avec les vacances d'été, je crois. Ça rime avec la baignade, la mer, le soleil, la Méditerranée. En tout cas, c'est ainsi que mes vacances se sont déclinées dans les années 80. Là, je crois que ces temps-ci, c'est plutôt la neige et le ski. Mais après tout, je crois que tout est possible.
Avec des pneus de neige ou des chaînes. C'est un livre, vous le dites, qui est né lors d'une nuit de 2014, alors que votre femme allaitait votre troisième fille. Je passais justement la chanson d'Aléla Diane. Finalement, elle était aussi pour vous, cette chanson, puisque c'est une révélation, d'une certaine façon, ce livre en camping-car.
Oui, alors vous aviez raison d'insister sur le rôle des mamans, mais enfin, il y a quand même des papas.
C'est ce que je disais.
Parfois,
je disais, quand tout va bien, il y a aussi les pères.
C'est vrai. Enfin, ce jour-là, voilà, j'étais réveillé. J'ai certainement été moins réveillé que ma femme. Enfin, là, j'étais là. Et c'est vrai que je voyais ce panorama des sommets alpins et ça m'a fait revenir d'autres souvenirs et le souvenir d'autres sommets que j'ai gravis dans mon enfance, en particulier des volcans, le Vésuve, l'Etna, ça fait partie des grands sommets de mon enfance. Et voilà, cette enfance, ces souvenirs me sont revenus avec une telle force que j'ai eu envie de consacrer un livre à ces vacances fabuleuses en camping-car. Et puis, je crois aussi que c'est le sentiment que j'étais à mon tour père de famille. On était en vacances et d'une certaine manière, mon heure était venue. C'était à moi de donner des vacances, du bonheur si possible, une forme de liberté à mes enfants comme moi-même mes parents m'en ont donné.
Yvan Jablonka, vous ne nous avez pas habitué à ce genre de livre plutôt léger, ce genre de récit plutôt solaire. Vous citiez tout à l'heure votre avant-dernier livre, donc maintenant, Laetitia ou la fin des hommes, qui a reçu le prix Médicis en 2016 et qui s'inspirait d'un fait divers sordide. Cela dit, la plupart de vos livres précédents n'étaient pas beaucoup plus gais. Est-ce qu'avec ce livre en camping-car, c'était aussi le besoin de sortir de tout ça, même s'il est encore question d'enfance, et qu'en tant qu'historien, vous êtes un historien aussi, surtout de l'enfance ?
C'est vrai que j'ai une conception un peu tragique de l'histoire. J'ai parlé de mes grands-parents assassinés, de Laetitia, j'ai aussi parlé des enfants abandonnés. Mais à chaque fois, j'essaye de privilégier la vie. Et dans le livre Laetitia, je parlais surtout de la vie de Laetitia et non pas de sa mort. Et j'ai essayé au cours de ce livre d'arracher Laetitia au crime qui l'a détruite. Maintenant, c'est vrai que ce livre en camping-car est beaucoup plus lumineux, méditerranéen. Ça fait revenir en moi des sensations que je partage avec des millions de personnes, les baignades, les vagues comme ça qui moussent sur la plage comme autant de bouteilles de champagne, le soleil, les fruits. Je me souviens qu'on a mangé pas mal de kilos de nectarines, de brugnons, de pêches. Voilà, on mangeait le soleil. Voilà le souvenir un petit peu que j'ai. Et ce sont essentiellement des sensations qui me sont revenues. Alors maintenant, l'adulte que je suis se souvient qu'il a été à Olympie, à Delphes, à Pompéi. Mais ça, c'est des choses qui sont des reconstructions culturelles, intellectuelles. L'enfant, je crois, était surtout sensible à des sensations de pure liberté, de pur bonheur. Et comme disait Rousseau, je me levais et j'étais heureux, je me couchais et j'étais heureux, le bonheur ne me quittait pas un seul instant.
C'est aussi un livre sur la liberté, Yvan Jablonka ?
Je crois que c'est surtout un livre sur la liberté parce que Pour ce qui est du bonheur, il y avait comme un poids sur mes épaules. Mes parents sont nés, juifs pendant l'occupation et leur vie a quelque chose d'improbable et leur bonheur aussi.
Et... D'où cette injonction, pardon de vous interrompre, de votre père, qui ouvre d'ailleurs le livre. Soyez heureux.
Oui, c'est vrai. Alors nous étions heureux, et il peut de ce point de vue-là être en paix. Nous étions absolument heureux pour tant de raisons que je viens de dire. Mais en même temps, il y avait comme cette sommation, cet enjeu. Le bonheur, c'était comme un enjeu de... une question de vie ou de mort. Et on peut penser que... pour l'enfant que j'étais, il y avait une forme de responsabilité. Donc, être responsable de son propre bonheur et du bonheur de ses parents, il y a quelque chose d'un petit peu troublant. Et la liberté, elle, était pure de tout soupçon. Et c'est pour ça que pour moi, la liberté, c'était en quelque sorte la cessation de l'angoisse. Et je préfère d'une certaine manière être libre plutôt qu'heureux, ou pour le dire autrement, c'est parce que je suis libre que dans un deuxième temps je me sens heureux.
Vous parlez de ce livre, Yvan Jablonka, en camping-car, comme d'un livre écrit à partir de sensations, mais néanmoins aussi un livre fait à partir de la reconstruction de souvenirs. Quelle est la part de souvenirs? Quelle est la part de fiction? À un moment, vous écrivez « Mon journal », puisque c'est aussi, vous vous êtes servi aussi de votre journal intime de ces années-là. « Mon journal et ma mémoire ne sont pas complètement d'accord ». Alors dans ces cas-là, on fait comment?
Je me suis servi de mes souvenirs parce que j'avais besoin d'archives. Et c'est un livre d'histoire et de ce point de vue-là, j'ai besoin d'archives. Alors là, ce sont des archives de soi, des journaux de voyage, des carnets de bord, mais aussi des petits objets que j'ai rapportés qui sont encore aujourd'hui chez mes parents, ou encore des témoignages que j'ai recueillis auprès des amis avec qui on partait ou auprès de mes parents. Et tout ça, j'appelle ça des archives de soi. Toute cette Cotille est devenue en quelque sorte mes pièces à conviction. Les pièces à conviction, vous voyez, c'est un terme qui relève du judiciaire, mais aussi de l'histoire, parce qu'on a besoin de s'appuyer en quelque sorte sur des preuves. Et maintenant que mes cheveux ont la couleur de la cendre, j'ai besoin de preuves que cette enfance a bel et bien existé. Et c'est quelque chose qui montre que mon enfance vibre encore en moi, avec une petite fibre d'angoisse ou en tout cas de réflexivité. Cette enfance a complètement disparu et j'ai besoin de certaines traces pour me souvenir que j'ai été enfant comme mes filles aujourd'hui. Et des traces en moi, c'est par exemple ces sensations.
Il y est question d'enfance, mais il y est aussi question, c'est aussi une exploration, votre livre, de la filiation, qui rejoint d'ailleurs vos sujets de travail d'historien. Vous écrivez à un moment, j'étais l'incarnation du bon fils, et je le suis resté pendant des décennies. Qu'est-ce que ça veut dire, un bon fils ?
Je crois que je correspondais à ce que voulaient mes parents, et beaucoup d'enfants essayent comme ça de se conformer aux souhaits parental. Alors... je travaillais plutôt bien à l'école et puis assez rapidement j'ai eu le sentiment d'être en dette avec nos disparus. Et ça renvoie à une des questions que je me suis posée dans ce livre, et c'est presque une question au sens scientifique, un problème, une problématique. C'est aussi pour ça que c'est en ce sens un livre d'histoire. Et cette question, c'est: à qui appartient mon enfance? À qui appartient notre enfance? La réponse triviale serait: elle appartient à nous. En fait, notre enfance appartient à nos parents, avec leurs forces, avec leurs failles, à nos grands-parents. Il y a un lien entre mes grands-parents, le camping-car et le populaire. Mes quatre grands-parents étaient des petits artisans, petits commerçants. Et ça fait le lien avec le populaire qu'incarne très profondément le camping-car. Et puis notre enfance, elle appartient aussi à des grands collectifs. L'histoire, le social, une génération, une époque. Et j'ai voulu rappeler donc qu'on s'inscrit dans des grands collectifs. C'est pour ça que mon livre est une autobiographie, mais c'est aussi le portrait d'une époque, ou pour le dire autrement, une autobiographie collective. Une autobiographie avec des « nous », c'est une manière d'échapper au narcissisme qui guette celui qui veut écrire sur soi. Et j'ai essayé de parler avant tout des autres, en tant qu'il y a des autres en moi-même. Je me suis demandé tout ce qui, en moi, n'appartient pas à moi, mais assez grand collectif. Alors par exemple, le camping-car, ça renvoie à un sentiment de la nature qui est né à la fin du 19e siècle et qu'on trouve chez Jack London ou chez Robert Stevenson. Ou le camping-car, c'est aussi les vacances d'été, alors les congés payés du Front Populaire qui ont permis cette culture du temps libre. Le camping-car, c'était aussi la libération des mœurs, les hippies en Californie, mai 68 en France. Et en ce sens, ces événements profondément politiques ont eu une traduction en termes touristiques. Et puis enfin, bien sûr, le camping-car, notre combi Volkswagen, c'est un siècle d'histoire allemande. Ça commence avec le nazisme et il y a des photos qui montrent le chancelier Hitler qui regarde une coccinelle parce qu'il voulait, dans sa prétendue politique sociale, que chaque ménage allemand ait cette voiture populaire. Et puis ensuite, ça se poursuit avec les grandes usines Volkswagen, le caravaning, la découverte des vacances en camping-car, en combi Volkswagen.
Et oui, parce que c'est pas n'importe quel camping-car, en l'occurrence votre camping-car Ivan Jablonka, c'est effectivement un combi Volkswagen, vous le dites très précisément, un transporteur T3 Joker Westphalia beige. Vous disiez plus facilement le bus dans la famille. La famille l'a acquis en 1984. C'est quand même un bus mythique, hein. On pourrait presque en faire une mythologie de barque. J'aimerais bien que vous nous le décriviez. Comment apparaît-il dans vos souvenirs? Comment c'était? On le voit très bien extérieurement, hein, ce bus, mais intérieurement, c'était comment?
Ouais, c'est vrai que le combi Volkswagen appartient aux grandes légendes de l'automobile au XXe siècle et c'est un profil qu'on reconnaît entre mille. Alors, il est un peu massif, un peu trapu, il est un peu plus gros qu'une Renault Espace. Enfin, c'est pas un gros monstre de camping-car avec
comme on les fait aujourd'hui.
Voilà,
hein,
avec des toilettes à l'intérieur, tout ça. C'est plutôt une espèce de gros van aménagé avec un habitacle. Alors, je me souviens qu'on passait beaucoup de temps avec mon frère à l'arrière. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'époque, donc on était un petit peu, on se baladait à l'arrière de l'habitacle.
Et puis on soulevait le toit pour pouvoir dormir,
c'est ça. Alors il fallait le toit était un peu lourd, il fallait un peu de force physique, on soulevait le toit et puis le camping-car était, comme on disait, ouvert. C'était un toit qui s'ouvrait à 45 degrés et là-haut c'était un peu mon espace, la couchette, c'était mon petit manoir, et le camping-car devenait un peu un Nautilus dans lequel, comme ça, je passais des moments formidables entre la mer, la terre, le ciel. J'étais inaccessible dans mon camping-car inclassable.
Mais d'ailleurs, il y a une publicité pour Volkswagen qui dit « Plus que nos voitures, vos histoires ». Je ne sais pas si vous vous en êtes inspiré pour écrire votre histoire en camping-car, Ivan Jablonka, mais ce qui est sûr, c'est que dans votre livre, le camping-car est plus qu'un camping-car. Le camping-car, vous en faites même le cinquième membre de la famille.
Le camping-car, c'était plein de choses à la fois. C'était le cinquième membre de la famille et l'espace resserré dans lequel celle-ci se retrouvait. Le camping-car, c'était aussi une bulle itinérante, une espèce de machine à remonter dans le temps, parce que grâce au camping-car, on franchissait les frontières, les pays, mais aussi les époques. Et ainsi, j'ai pu voyager dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité romaine, en Italie du Sud, en Turquie, au Maroc, dans tout le bassin méditerranéen qui a été en quelque sorte fécondé par la civilisation gréco-latine.
C'est en cela qu'il a été décisif dans votre formation. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes devenu historien. Sûrement, il y en a mille autres, mais Ivan Jablonka.
Je crois que je suis devenu historien aussi pour ça, parce que j'ai voyagé dans l'histoire grâce au camping-car et aussi parce que grâce au camping-car, j'ai découvert ce que j'appellerais la trace, c'est-à-dire les restes du passé dans le présent, des temples romains ou grecs ruinés ou des morceaux de céramique grecque que je ramassais comme ça dans la poussière d'un sentier. Et puis le camping-car, je crois aussi, nous a sauvés, parce que le camping-car, c'était le contraire du wagon plombé qui vous déporte vers Auschwitz. Le camping-car, c'était un voyage libre, une espèce de dérive insouciante vers la joie de vivre, vers le soleil, vers la Méditerranée. Et c'était tout le contraire d'un voyage forcés vers la mort. Alors on peut comprendre que ça nous ait sauvés.
C'est ce qui explique ce passage de votre ouvrage. En valorisant une culture démocratique et une manière d'être toujours en mouvement, il a été le support, il étant bien sûr le camping-car, d'un rapport au monde qui fait le lien entre le cosmopolitisme juif du 19e siècle, la culture contestataire du 20e siècle et les idéaux de la gauche pour le 21e siècle. Vous en mettez beaucoup quand même dans le camping-car, Yvan Jablonka.
Non, je crois que le camping-car, c'est un objet comme ça qui est au croisement de plusieurs courants de pensée, de mouvements. D'abord, le camping-car, c'est le refus de l'enracinement, le refus du national.
Oui, vous dites même que ça vous a préservé de la parisianité. Alors, c'est un enracinement bien local.
Oui, et puis c'est vrai que c'est important de ne pas se sentir appartenir à un tout petit village. Moi, je me sentais pas né quelque part, comme disait Brassens. Et donc, le camping-car, c'était au contraire un déracinement, un dépaysement, un refus de toute autorité. Et puisque vous me parliez de cette parisianité, c'est vrai que ne pas se laver pendant 4 jours ou aller pisser dans les dunes au matin, ça vous guérit à tout jamais de la morgue, de la connivence entre les élites et du sentiment de mériter l'univers. Alors ça aussi, ça montre que le camping-car, c'était en quelque sorte un espace-temps qui venait comme ça façonner un rapport au monde. C'était une expérience éducative en soi. Et de ce point de vue-là, oui, je suis fier de cette éducation.
Mais ce qui est finalement assez étonnant, c'est que vous avez fait un tour d'Europe, et même au-delà, Portugal, Grèce, Sicile, Turquie, Maroc, racontez-vous. D'ailleurs, votre livre est organisé en chapitres qui sont à la fois chronologiques et géographiques. Mais finalement, Yvan Jablonka, vous parlez très peu de ces pays où vous êtes allé. Ce n'est pas ce que vous avez retenu, ça n'est pas l'objet de ce livre, qui est à la fois un récit d'apprentissage et une socio-histoire. Et ça, on y reviendra dans 2 minutes après le journal. Mais juste sur ce fait que finalement, les pays ne sont pas ce qui vous a le plus intéressé, d'une certaine façon. En tout cas pour ce livre.
J'étais un gosse, et un gosse, il n'a pas conscience qu'il va traverser l'Espagne comme ci et la Grèce comme ça. Je pense que ça correspond un petit peu au sentiment que j'avais enfant, c'est-à-dire que le plus important, c'est la liberté, le fait qu'on peut se baigner soir et matin, on mange des bons trucs, de la sardine grillée sur la plage quand le soleil se couche. Et c'est à ça que j'ai voulu rendre hommage.
Vous n'avez aucun souvenir, écrivez-vous, avant l'âge de 6 ans. Et ce livre est structuré par 2 périodes de bonheur. Il y a d'abord une année scolaire en Californie, en 79-80. Et puis il y a les étés en camping-car à sillonner l'Europe. Alors on va écouter juste avant de se quitter provisoirement pour se retrouver après les titres de l'actualité. On va écouter un California Dreaming. Allez, on vous retrouve donc dans 2 petites minutes, Yvan Jablonka. Le temps d'écouter les titres de l'actualité. Il est 7h30 sur France Culture. C'est à vous, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour. L'ébauche d'un véritable complot russe pour faire gagner Donald Trump à la présidentielle de 2016. Le procureur spécial Mueller a inculpé hier 13 ressortissants russes aux États-Unis, accusés donc d'avoir travaillé dès 2014 pour semer le trouble dans la politique américaine et servir les intérêts du milliardaire. Ce dernier dément toujours toute collusion. Une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter et 2 minutes d'angoisse au Mexique. Le sud-ouest du pays a subi hier soir un séisme particulièrement long et violent, là même où il y a 5 mois la terre avait déjà tremblé et fait plus de 400 morts. Cette fois, les dégâts matériels sont importants, mais les autorités mexicaines ne signalent pour le moment aucune victime. 10 ans d'indépendance fragile au Kosovo, le plus jeune État européen célèbre cet anniversaire aujourd'hui. De manière contrastée, les divisions restent tenaces entre albanophones et serbes. Exemple dans la ville de Mitrovica, ce sera dans notre journal de 8h. Une nouvelle ère, moins de corruption, une meilleure répartition des terres, c'est en Afrique du Sud le premier discours du président Cyril Ramaphosa qui annonce une transformation économique radicale. En rupture avec les 8 années de Jacob Zuma au pouvoir, le nouvel homme fort de l'ANC promet de retrouver l'esprit de Nelson Mandela. Dans une demi-heure, nous reviendrons sur la circulaire Colomb qui autorise un recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence en France, des centres où l'accueil est censé être inconditionnel. Les associations de défense des droits des étrangers étaient hier devant le Conseil d'État pour contester cette mesure. La plainte pour viol contre Gérald Darmanin, classée sans suite, l'enquête préliminaire n'a pas permis de montrer que le ministre des Comptes publics avait forcé le consentement de la plaignante en 2009, mais une autre affaire reste à l'état d'investigation. Elle concerne cette fois des accusations d'abus de faiblesse. Enfin, à 8h, nous irons à Pyeongchang, les JO d'hiver en Corée du Sud, avec la médaille d'or du malaise pour ces pom-pom girls nord-coréennes. Leur chorégraphie quasi militaire permet aux habitants du Sud de mesurer les décalages culturels des deux côtés de la frontière. Ce sera un reportage donc dans une demi-heure de Frédéric Ojardias.
À tout à l'heure, donc 8h pour le journal complet de la rédaction Camille Magnard. À suivre dans la prochaine demi-heure, cette fois, la suite de notre entretien avec l'écrivain et historien et écrivain Yvan Jablonka. Et à 7h40, la fabrique médiatique sur le podcast comme nouvelle Eldorado de la radio. Ou Eldoradio, tiens, vous me suggériez ce mot, Camille Magnard. Ce sera avec Florent Latrive de France Culture et la journaliste Pascale Clark.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque samedi sur France Culture à 16h, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Je vous invite à écouter ce samedi Alain Cohn, grand mathématicien, professeur au Collège de France, discuter avec moi de la question de savoir où se trouvent les mathématiques. Sont-elles là, tout autour de nous, ou bien sont-elles confinées dans un monde séparé ? Au passage, je lui demanderai ce qu'on peut faire d'intéressant avec une plaquette de chocolat, outre la croquer, bien sûr.
Où se trouvent les mathématiques ? Étienne Klein s'entretient avec le mathématicien Alain Cohn. La conversation scientifique, ce samedi à 16h et sur franceculture.fr.
Bah écoutez, absolument, on retrouve notre invité Yvan Jablonka, historien et écrivain, pour son nouvel ouvrage « En camping-car ». Je dis en camping-car, ça c'est le titre du livre, mais je dis son nouvel ouvrage, Yvan Jablonka, parce que j'hésite effectivement entre le récit d'apprentissage et la socio-histoire. D'ailleurs, ce livre est sélectionné pour le prix France Télévisions Essai. Vous l'auriez mis dans une catégorie essai, vous ?
Je pense que c'est le lecteur qui décide ce qu'il ou elle a entre les mains. Alors, on peut considérer que c'est un livre d'histoire ou de sociologie, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Mais c'est aussi un récit d'apprentissage, c'est aussi une autobiographie avec des nous, c'est aussi le portrait d'une époque, la fin du XXe siècle. C'est plein de choses à la fois et je crois que c'est bien qu'on ne puisse pas classer un livre.
C'est l'occasion de digresser, en effet, sur l'époque, en l'occurrence celle des années 80. Alors, vous n'êtes pas tout à fait dans la façon dont François Cusset, historien des idées, a catégorisé les années 80. Il en a fait un livre aux éditions La Découverte qui s'intitulait, si je me souviens bien, Le Grand Cauchemar. Mais est-ce que ça veut dire que, allez, 30, 35 ans ont passé, c'est déjà un objet d'histoire, les années 80, Yvan Jablonka ?
Oui, je crois. De toute façon, l'objet d'histoire n'est pas défini par la distance temporelle, mais par la distance critique. Donc dès lors qu'on essaye d'avoir un peu de réflexivité sur une période du passé, eh bien, on peut faire de l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait un livre d'histoire sur le fait divers qui a emporté Laetitia Perret en 2011. Là, en l'occurrence, c'est un sujet beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. C'est les années 80, l'enfance, la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Mais j'ai le sentiment que c'est le monde d'hier, comme disait Stephen Zweig. Pourquoi ? Parce que on a basculé dans un autre siècle. Alors, comment définir notre société aujourd'hui ? Je dirais que c'est tout simplement la société numérique, pour le dire en un seul mot. On est tous connectés, ou alors il y a des objets qui nous sont devenus indispensables, comme, disons, Google, Facebook, le smartphone, l'appareil photo numérique, le GPS, bref, autant d'inventions techniques qui n'existaient pas. et qui viennent en quelque sorte caractériser négativement ces années 80. Bah, c'était un autre siècle et c'était celui de mon enfance. Alors c'est d'autres objets. Moi par exemple j'avais un Walkman que je chérissais. Il y avait des cassettes. J'envoyais des cartes postales à mes proches au lieu d'envoyer comme aujourd'hui une photo sur WhatsApp. Je lisais Picsou. Vous vous souvenez-vous de Picsou?
Oui, on est à peu près de la même voilà, génération, figurez-vous.
Placide et Musopoche. Voilà. Bon bref. Ce que je veux dire par là, c'est que les époques s'incarnent aussi dans une culture matérielle. Et le camping-car, de ce point de vue-là, appartenait à ces années 80.
Oui, mais ce n'est pas seulement le camping-car. D'ailleurs, dans votre livre, effectivement, vous digressez, bien sûr, sur cette mode du camping-car, sur le combi, on en a parlé, le combi Volkswagen. Vous parlez aussi de l'histoire du camping, mais vous donnez aussi des informations sur des événements concomitants à divers moments ou dans diverses années. Pourquoi ces notices explicatives ou des notices de contextualisation? Est-ce que c'est une des formations professionnelles? Est-ce que c'est une façon de nous faire partager le making-of du livre, Yvan Jablonka?
Non, je crois que ça fait partie du travail de l'histoire et de la sociologie que de comprendre le contexte, le parfum d'une époque. Et les années 80, c'est vrai que ça s'associe à des souvenirs. La mort du chanteur Balavoine, je m'en souviens comme si c'était hier. Ou alors l'explosion de la navette Challenger quelques semaines plus tard. Et ça, ça fait partie...
La mort de la petite Omera Sanchez dans la boue.
Exactement. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Alors, il y a peut-être un aspect « je me souviens », comme disait Georges Perec, mais je crois que c'est aussi important de comprendre comment une époque est tissée de souvenirs individuels et collectifs. Donc j'ai essayé de faire varier les focales individuelles, familiales, sociales et collectifs.
Pour comprendre, écrivez-vous en quoi notre unicité est le produit d'un collectif, l'histoire et le social, se penser soi-même comme les autres. En quelque sorte, vous employez le singulier pour mieux dire le pluriel, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. On sait que, depuis les livres précédents, puisque vous l'avez dit, vous l'avez écrit, que vous avez trois filles. Est-ce que vous les emmenez en camping-car, Yvan Jablonka?
Non. On fait d'autres vacances, des vacances plus stable, on va dans des maisons de campagne, mais aussi on se balade dans des capitales culturelles formidables. Alors on n'est pas en camping-car, mais on est quand même très heureux. C'est simplement que, voilà, peut-être l'époque, quelque chose a changé peut-être.
Et vous nous donnez quand même la bande-son de ces années camping-car à un moment de votre livre. Une bande-son que vous avez choisi de mettre sous le signe de Carmen. Carmen avec l'acte 2, scène 5, le ciel ouvert, la vie errante, pour pays l'univers et pour loi sa volonté et surtout la chose enivrante, la liberté, la liberté.
Il faut bien.
Oh, le monde n'est pas galant, mais qu'importe, vas-tu t'y faire quand tu verras comme c'est beau la vie errante pour pays, l'univers et pour moi sa volonté. Mais sur toi,
peut-être un commentaire sur ce choix quand même, Yvan Jablonka, rapidement.
Ça me fait très plaisir, voilà. ça me rappelle la bande-son de mes vacances dans les années 80 et ça me fait très plaisir, merci.
La voix d'Angela Giorgiou sous la baguette de Michel Plasson. Merci Yvan Jablonka. Je rappelle le titre de cet ouvrage, En camping-car, collection La Librairie du 21e siècle, c'est édité au Seuil. Merci beaucoup d'être venu dans ces matins du samedi.
Merci à vous.